Salut tout le monde, bienvenue dans musique.fm sur Canal B 94 FM, votre émission qui vous passe plein de sons de jeux vidéo. Donc je suis en compagnie de Alexis comme d'habitude. Salut Alexis.
Salut Benjamin. On se retrouve enfin au studio.
Oui, on est au studio parce que la dernière fois pour les personnes qui ont écouté, on était à distance. Et du coup, ça fait plaisir de retourner dans les locaux de Canal B.
On était en duplex.
Exactement.
J'ai toujours rêvé de dire ça à la radio.
En télétravail même, je dirais.
Ah oui, c'est vrai, peut-être. En télétravail bénévole.
C'est vrai. Et donc aujourd'hui, on vous a préparé une petite émission avec un thème, parce que je crois qu'on aime bien faire des émissions thématiques. Et le thème d'aujourd'hui est les relations entre le cinéma et le jeu vidéo. Donc c'est un thème assez classique, souvent moqué quand même, comme un cas d'école de mauvaise production. parce que oui, il y a des liens assez étroits entre le cinéma et le jeu vidéo, évidemment. Et c'est à l'origine de pas mal de croisements et de mariages qui sont souvent un peu forcés.
Mariage forcé, c'est ça.
Parce que ce soit dans les films adaptés de jeux vidéo ou les jeux adaptés de films, c'est pas forcément tout le temps fait pour les bonnes raisons, à savoir que la raison principale, c'est la thune et un petit peu prendre les fans pour des cons aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui évolue pas mal aujourd'hui et qui est pris quand même plus au sérieux qu'à une certaine période, parce que je me souviens, genre sur les jeux PlayStation par exemple, qui étaient adaptés de films, il y avait les producteurs avaient envie que le jeu sorte en même temps que le film, ou alors de façon très très proche. Donc souvent les personnes qui développaient le jeu adapté du film n'avaient même pas vu le film. Donc t'étais quand même face à des espèces d'aberrations bizarres où ils essayaient de broder sur ce qu'ils pensaient être le film sans l'avoir forcément vu.
Oui, t'as genre l'idée de base où tu sais que c'est genre un héros qui va buter un alien, mais ça part n'importe comment. Et parfois même les scénarios de films, dans un film c'est assez complexe, faut que ça dure, et dans le jeu ils savent pas trop quoi raconter entre une scène et une autre du film.
Donc, ouais, c'est ça. Des fois t'as des niveaux entiers qui représentaient littéralement une seconde dans le film, et ils brodaient sur un truc un peu naze.
Ou alors genre des films qui sont pas trop basés sur l'action, ou alors t'as l'action qui sera que par exemple dans trois scènes du film parce que ça se base sur le suspense, etc.
Oui.
Et le jeu, vu que le jeu faut qu'il soit un peu bourrin, genre si t'as un méchant dans le film, et dans le jeu il y en aura, tu vas le voir 50 fois en fait.
C'est ça. Ouais, on a essayé quand même de vous trouver des jeux un peu sympas. Et d'ailleurs en intro, on a passé un morceau du jeu Die Hard Trilogy sorti sur PlayStation en 96. Le thème composé par Neil Palmer et Stephen Root. Et donc, c'était le thème de Harlem. Parce que, pour vous expliquer vite fait, Die Hard Trilogy, donc c'était un jeu qui reprenait la trilogie de films Die Hard. Donc, il y avait trois jeux en un. Il y avait un jeu, un TPS, third person shooter. Il y avait un rail shooter. Et le dernier, basé sur Die Hard 3, c'était un jeu de voiture ultra frénétique, ultra bourrin, dans lequel tu devais, c'était une course contre la montre, tu devais désamorcer des bombes, enfin, ou même carrément les faire péter, dans New York, et tu te baladais dans les quartiers de New York. Donc là, on avait le thème de Harlem. Et donc chaque quartier avait son thème, donc c'est marrant, dans la BO, t'as le thème de Wall Street avec des sons de tching tching de thunes qui tombent. C'est assez drôle de visiter New York d'après cette BO, et il y avait un truc qui était assez ouf dans ce jeu, et tout le monde en parlait à l'époque pour cette raison, c'est que dans ce jeu de voiture, tu pouvais écraser les piétons et ton pare-brise était couvert de sang et les essuie-glaces s'activaient pour enlever le sang. Et je me souviens qu'à l'époque, en 96, en vrai, c'était assez... Il n'y avait pas encore GTA,
Carmageddon.
GTA 3, tout ça. Il y avait Carmageddon, mais là, c'était vraiment... Donc, tu étais un flic qui était là pour sauver les gens, mais tu pouvais quand même tuer des centaines de gens dans la rue. C'était,
et tu n'avais pas de pénalité quand...
Non, c'était juste, c'était juste drôle. Donc voilà, mais voilà, donc ça c'était un exemple de jeu qui était quand même assez fun et qui était pas trop pourri.
Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui essayaient en plus de, enfin je sais pas si c'était le cas de tous les jeux inspirés de films, mais en général les jeux essayaient de suivre la trame du film, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc parfois même en contournant le scénario, mais le but était un peu de revivre le film qu'on a vu à l'écran, de le revivre à travers le jeu avec le même un peu le même scénario quoi.
Oui c'est ça, au moins ils essayaient.
Ils essayaient, bien sûr.
Et donc, comme d'hab, on va commencer par une petite sélection de morceaux. Donc, je vais vous passer quelques morceaux et on en parle juste après. Mmh. êtes bien sur Canal B 94 FM, l'émission musique.fm qui passe du son de jeux vidéo. On vient de s'écouter une petite sélection de quelques titres que je vais vous présenter maintenant. Donc en premier, on a eu un morceau du jeu Les Tortues Ninja 4 Turtles in Time, sorti sur Super Nintendo en 91. Le morceau du niveau Sewer Surfing, composé par Kozo Nakamura. Et donc ce jeu a une BO qui est quand même assez mythique, oui. Franchement. Ouais. Je pense qu'Alexis et moi, on est tous les deux d'accord.
Oui.
On surkiffe la BO de ce jeu qui est vraiment super fun, ultra bien foutu, assez énergique. Et moi, personnellement, c'est une BO qui m'a pas mal influencé à composer de la musique un peu inspirée de jeux vidéo, quoi. Donc
cool.
ça fait partie de mes références. Et dans ce morceau... Et dans cette BO, d'ailleurs, en règle générale, on a une surutilisation d'un son qui s'appelle le Orchestral Hit, qui est un son assez mythique, qui a été énormément utilisé dans les années 80 avec les sampleurs. C'est ce son-là, donc je pense que ça va vous dire quelque chose. Je remets. Oula. Ah, c'était pas le deuxième. ouais, du coup, le tang, et donc ça vient en fait à la base d'un sampler qui c'était le Fairlight CMI sorti en 75. Et donc voilà, c'est un son qui a été vraiment énormément utilisé dans les années 80, même dans Michael Jackson, il y en a pas mal. Enfin, il y a.
Ouais, à fond.
C'est un son assez mythique, et donc voilà, c'est.
J'aime bien le. Comment ils appellent ça ? Orchestral hit, un coup d'orchestre.
Oui, voilà.
c'est vrai que tu te prends un coup d'orchestre dans la tronche.
Exactement, c'est comme si tu te prenais une tarte. Faites par orchestré. Un orchestre.
Et juste petite anecdote, Benjamin, parce que je vois que le morceau que tu as passé, c'est Sewer Surfing. Donc, c'est le morceau où on surfe dans les égouts avec
exact.
Les tortues.
Yes.
Juste pour la relation avec le cinéma, c'est que je ne sais pas si tu te rappelles, les ennemis dans ce niveau, c'est vraiment des réplicas d'aliens, en fait, de
oui,
xénomorphes.
Oui, exact.
Donc, voilà, inspiration cinéma, jeu vidéo.
C'est vrai, cinéma, jeu vidéo.
Petite anecdote.
Parce que oui, y a eu des films Tortues Ninja. Bon, après, c'est un lore assez complexe où c'était des jouets, des jeux vidéo, une série animée, des films, donc voilà.
De l'argent
énormément de thunes, mais bon, énormément de fans aussi, de gens de notre génération qui étaient fans des Tortues Ninja.
Bien sûr.
Alors ensuite, on a eu un morceau du jeu Batman, sorti sur NES en 91. La BO est composée par Naoki Kodaka. Et donc, voilà, c'est un super jeu, très dur.
Oui.
Mais donc Batman, c'était directement sorti après le premier Batman de Tim Burton. Donc c'était ça, mais c'était quand même un jeu chouette. Et ensuite, on a eu, alors là c'est encore un autre délire, un morceau du jeu House of the Dead 4 sorti en 2005 sur arcade.
Oh, c'était Terrifier, pardon.
Ah oui, pardon, je me trompe.
Okay.
Exactement, donc il y a eu un morceau du jeu Terrifier, The Arcade Game, sorti donc en 2025 sur toutes les plateformes, le main theme. Et donc, le thème a été composé par Cody Carpenter, qui n'est autre que le fils de John Carpenter. Et je trouve, on en parlait un petit peu en l'écoutant, que c'était quand même... Il y avait une filiation assez directe. On a vraiment l'impression que c'est John Carpenter qui a composé la BO. Et donc, Terrifier, si vous n'avez pas vu ces films-là, c'est des films d'horreur très, très, très gore. Il y en a trois qui sont sortis, il y a un quatrième qui est en production. Et c'est un mélange entre des slashers et des ce qu'on appelle des splatter movies, donc des films extrêmement gore.
Jamais vu.
Ah ouais, j'adore. J'adore. Et le dernier, le 3, a fait un peu le buzz parce que c'était un film d'horreur qui était interdit aux moins de 18 ans.
Ah oui, rare.
C'est un peu rare pour un film qui n'est pas un film pornographique. Et voilà. Donc...
Et John Carpenter, gamer, on en parlait aussi tout à l'heure.
Exactement. Voilà.
Voilà.
Et oui, et donc son fils Cody Carpenter a une carrière de musicien, il a fait pas mal d'albums et il a commencé en faisant un peu de musique dans Ghost of Mars avec son père.
Il a fait d'autres BO de jeux ou pas, tu sais ?
Je pense pas qu'il ait fait trop de BO de jeux, mais il a une carrière vraiment de musicien. Alors ensuite, donc, comme je vous disais, on a House of the Dead 4 sorti sur arcade en 2005, composé par Tetsuya Kawauchi. Et donc là c'est un morceau, je trouve que ça fait vraiment esprit arcade avec les machines qui gueulent de ouf, un son très énergique, parce que bon, les bandes d'arcade, il y avait aussi cette idée, il fallait attirer les gens quoi, donc fallait un peu comme des machines à sous qui c'était un peu ça, fallait le truc qui tabasse. Et donc le morceau était assez vénère. Et donc House of the Dead a été adapté au cinéma. Un film extrêmement mauvais, réalisé par le réalisateur extrêmement mauvais Uwe Boll, qui est...
Attention, il va venir te casser la gueule.
c'est vrai qu'il a l'habitude de faire ça. Ouais. Présentation rapide du personnage, mais il est quand même assez connu maintenant. Il est connu pour justement faire des mauvais films et pas mal d'adaptations nulles de jeux vidéo. Donc il a fait Blood Rain, Far Cry, Alone in the Dark, Postal, etc., etc. Et donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez important, malgré lui, dans la scène de films adaptés de jeux vidéo.
Il y a un sale caractère.
Un sale caractère.
J'aime pas qu'on le critique, et alors que c'est évidemment très nul ce qu'il fait.
Oui, c'est ça. Il est
un ego, un ego surdimensionné.
Un vrai ego. Après, je pense que c'est quand même pas mal un énorme troll aussi. Quoi. Enfin, je pense qu'il en joue à fond, parce que tellement tout le monde s'est foutu de sa gueule, maintenant il se dit, bon, et voilà, donc tu disais, il va venir te casser la gueule.
Ouais.
Il avait organisé un match de boxe avec des critiques cinéma qui avaient critiqué ses films, mais il leur avait caché que lui, il avait fait beaucoup de boxe dans sa vie, donc je crois qu'il en a mis un KO. Enfin, bref. Bonne ambiance.
Alors, on conseillera les vidéos de Karim Debbache sur le sujet.
Exactement. Si oui, c'est vrai. Karim Debbache, c'était Crost.
Ouais.
Qui était sur jeuxvideo.com.
Sur YouTube, il y a tout. Ouais.
Ouais, c'est exactement dans le thème de ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est vrai.
C'est cinéma et jeux vidéo. Et donc, le dernier morceau que je vous ai passé venait de la BO de Tomb Raider 2, sorti en 97 sur PC et PlayStation, composé par Nathan McCree. Et donc, c'était le passage dans Tomb Raider 2 ultra stylé quand tu as la motoneige et qu'il y a cette musique techno qui se met en route. Et là, tu as envie de foncer. Mais en même temps, la motoneige est super, super fragile et donc se crache tout le temps, tu meurs. Mais Tomb Raider, extrêmement punitif. Hein.
Ouais.
Et donc voilà, c'était. Et donc il y a eu des adaptations au cinéma.
J'en ai vu aucune.
Moi non plus.
Je crois qu'il y a une série qui est en cours là, qui va arriver sur Netflix ou je sais plus quoi. Mais bon, il y a eu tellement de films.
Ouais, il y en a eu plusieurs.
Des reboots, non ? Enfin, il y a eu plusieurs actrices, etc.
J'ai pas de ouf suivi, mais par contre, je trouve ça intéressant, Tomb Raider, parce que du coup, à la base, c'est des jeux vidéo qui sont directement influencés du cinéma Indiana Jones.
Ouais, à fond.
Mais avec, avec une autre héroïne. Et après, ce qui est drôle, c'est que. Il y a eu des jeux Indiana Jones qui se sont inspirés de Tomb Raider. Enfin bref, du coup, il y a une espèce de filiation étrange qui s'est créée entre cinéma, jeux vidéo, influence, qui sont auto-influencés les uns les autres.
D'accord, un crossover avec Indy et Lara Croft.
Je suis sûr qu'il y a des fans qui ont fait ça, mais...
Ouais.
Mais voilà, donc c'est un peu drôle ce que ça peut créer, ce genre de,
et oui.
Ce genre de croisement. Et donc, je vais vous passer un dernier morceau. De ma petite sélection. C'est parti. écoutez Canal B 94 FM, l'émission musique.fm. On vient de s'écouter un son du jeu Dune 2 de Building of a Dynasty, sorti sur MS-DOS en 92. La BO a été composée par Frank Klepacki et Dwight Okahara. Frank Klepacki, qui est une figure majeure du jeu de stratégie en temps réel, qui a bossé, qui a fait énormément de BO pour le studio Westwood. Donc c'est, je crois qu'il a commencé, cette BO là, il l'a fait, il avait 17-18 ans. Enfin, il était vraiment très 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 jeune.
Wow.
Et il a fait, il a aussi une carrière solo en tant que musicien. Et je vous ai passé ce son, donc Dune cinéma. Il est sorti un petit peu après le Dune de David Lynch, mais bon, c'est adapté, voilà, c'est adapté des bouquins. Et ça a été réadapté en film par la suite. Mais en gros, je trouvais ça intéressant parce que c'était pour parler du fait qu'à l'époque, en fonction de ta carte son, la musique pouvait différer énormément parce qu'en gros, dans le jeu, tu avais une sorte de partition qui était lue par ton matériel de façon différente en fonction de la thune que tu avais mis dedans, quoi. Et donc là, en gros, c'était la version carte son Adlib. Donc c'était un petit peu la carte son de base, pas ouf, quoi.
Toi, tu te rappelles ce que t'avais comme carte son ou pas?
Moi, je me rappelle que je galérais pour chaque jeu à choisir.
Ah, ça faisait... Le jeu commençait avant de jouer, en fait.
C'est ça.
Il fallait rentrer dans le menu MS-DOS.
C'est ça, et j'ai joué à pas mal de jeux sans avoir le son parce que je savais pas quelle carte son choisir.
Et parfois, ça marchait une... Enfin, je me rappelle que je jouais à un jeu, j'allais donc dans MS-DOS, dans le setup. Moi, j'avais une Sound Blaster 16, je sais pas quoi.
Oui.
Et donc, je jouais au jeu, et parfois, je finissais le jeu, ou qu'importe, je le supprimais, parce que les disques durs étaient tout petits, donc il fallait supprimer les jeux souvent.
Oui, c'est ça.
Pour installer un autre jeu, et puis quand tu voulais rejouer à un vieux jeu, il fallait resupprimer ton ancien jeu, etc. Et parfois, je réinstallais le jeu, et je faisais exactement la même chose, ça marchait pas, quoi. Ma Sound Blaster, elle était pas reconnue, ou. Enfin bon. Tout un tas de péripéties de MS-DOS de l'époque.
Plein de choses très obscures quand même sur DOS.
C'est clair.
Surtout quand on était petit.
Et référence à notre label musique.exe, d'ailleurs, ça vient
exactement.
De ce langage MS-DOS. Hein. C'est top, point, etc.
Et du coup, ouais, donc là, on a écouté la version de carte son un peu pas ouf. Et je vais vous passer juste pour vous montrer le même morceau, mais joué par la Roland MT32, donc qui était un peu plus stylé. Donc là, c'était un peu... Il y avait plus d'orchestration.
Oui, là, on y est.
Ça, c'est MT32, et ça, c'est l'autre. C'est comme ce qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà, il y a quand même une petite différence.
Bah, je crois que je préfère peut-être la moins chère.
Bah oui, bah, c'est pour ça que j'ai passé dans mon mix, j'ai passé la Adlib, là, parce que c'était
plus marrant. C'est plus poétique.
Peut-être. Exactement, il y a plus d'imagination. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de cette époque qui est totalement révolue aujourd'hui, du choix de carte son, et qui nous fait un peu marrer, Alexis et moi.
Ouais, d'ailleurs, pour rentrer un peu dans le sujet geek avec le matos, c'est que je possède moi deux synthés, enfin deux expanders en rack Roland. Le JV1080 et le SC155, en gros, tu pouvais même passer des jeux MS-DOS dans des expanders qui servaient à faire de la musique de film ou de la musique électronique.
Carrément.
Donc c'est assez hyper rigolo, en fait, le jeu, à quel point il peut changer avec le matos que t'as. Et c'est le General MIDI, donc ouais, c'est...
Oui, le format MIDI qui est utilisé avec les...
C'est fou, c'est génial, en fait, de dire ça.
C'était la parenthèse extrêmement nerd, hein, vraiment.
J'ai fait court.
Ah, c'était cool. Et donc, mais du coup, c'est des machines qui sont intéressantes à utiliser aujourd'hui parce que franchement, il y a une patte quand même.
Bah ouais, si tu veux faire de la musique un peu rétro gaming, 90s, tu peux choper ces vieux trucs Roland qui sont pas trop chers.
Oui, pour
pas l'instant.
Très cher, ouais.
Et tu retrouves vraiment le feeling des jeux MS-DOS, des JRPG, des trucs comme ça.
Bah ouais.
C'est très fun.
Et donc, j'ai fini ma sélection et on va passer à la tienne, Alexis, ça te dit ?
Yes ! Donc, je vais passer dans le même principe, pas mal de jeux. Je crois que c'est des jeux auxquels j'ai joué quasiment tous. Mm-hmm. Et donc, ils sont assez. Ils ont une certaine valeur pour moi.
Ouais.
Et juste pour l'anecdote aussi, c'est qu'on n'a passé aucun morceau de Mortal Kombat ou Super Mario parce que oui, peut-être qu'on a été traumatisé par ces adaptations cultes, mais s'il y en a qui ont connu ces films-là à l'époque où ils sont sortis, le Mario Bros des années 90
ah ouais,
et le Mortal Kombat, qui est un peu plus fun quand même que le Mario.
C'était une bizarrerie. Le Mario, d'ailleurs, des années 90, le méchant joué par Dennis Hopper, c'était une sorte de caricature de Trump, un peu.
Ah, oui. Bien joué. Ça a plus... Ah, voilà, le film est plus intéressant aujourd'hui.
Ouais.
Bon, regardez-les si vous voulez souffrir un peu, mais et beaucoup rire, surtout.
Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec le jeu.
Non, non. Donc, allez, je commence ma sélection.
Thank you.
On est sur Canal B 94 FM, l'émission musique.fm qui vous cause de musique de jeux vidéo, entre autres. Aujourd'hui, c'est donc la spéciale cinéma, jeux vidéo et cinéma, cinéma, jeux vidéo, dans tous les sens, parce que de toute façon, tout s'est mélangé avec le temps. Et j'ai commencé cette petite sélection avec évidemment un thème extrêmement connu de tout le monde, le thème des Simpsons, voilà, de Danny Elfman. Et sur la version NES, sortie donc en 91. Bon voilà, on voit un peu les dégâts.
Un peu défiguré le thème quand même.
Ouais. On sent qu'ils ont dû broder avec le très 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 peu de pistes sonores de la NES, alors que là, évidemment, le thème est très orchestré, donc
bah oui.
C'est tout fouillé, mais évidemment, quand on aime un peu, quand on est sensible à cette vieille musique de jeux vidéo, on trouve ça plutôt poétique et très mignon, quoi.
Carrément.
Mais c'est vrai que, bon, d'un point de vue strictement musical, c'est un peu décousu. En tout cas, voilà, c'était donc le thème de ce jeu Bart versus Space Mutants, donc un jeu que je possédais à l'époque, bah, en 91 forcément, et d'ailleurs c'est la seule fois peut-être, je sais pas si je l'ai fait après, j'avais dû appeler la Nintendo Hotline.
Ah, t'étais bloqué ?
J'étais bloqué, le premier boss.
Ok.
Le jeu était extrêmement difficile, super punitif, super relou. Il fallait capturer tout ce qui était violet dans les niveaux, parce que les aliens sont violets, il fallait... Bref, c'est chelou. Mais le jeu était hyper hyper dur.
Et tu faisais du skate dedans ?
Oui, il y avait du skate, il y avait... tu jouais Bart Simpson, donc tu avais un peu tous les attributs. Je crois qu'il y avait peut-être même un lance-pierre, j'imagine, je sais plus. Le premier boss, je crois que c'était le pote de Krusty, comment il s'appelle, le méchant. Bob ?
Ah, Tahiti Bob ?
Tahiti Bob, ouais, c'est ça. Et bref, c'était hyper dur. J'avais appelé la hotline Nintendo et je me rappelle que j'avais appelé plusieurs fois. Je tombais toujours sur la même nana. Et elle en pouvait plus, elle était là. Ah, bon, alors il faut reprendre ça, il faut faire ça. Et je m'étais fait incendier par mes parents. La c'est facture fou, de ça. Téléphone était élevée.
Ça devait être drôle de faire ce taf quand même, d'avoir des enfants au téléphone pour leur donner des solutions de jeu.
Ça doit être peut-être pénible. Je sais pas.
Pénible.
Mais en fun cas, aussi. Ça... Enfin, là, évidemment, quand j'y repense, je trouve que c'est un métier génial. Mais...
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'existe plus du tout.
Non, il n'y a plus de hotline. Mais c'était une sacrée époque, c'était très fun.
Ouais.
Ensuite, il y a eu le morceau Gotham Plaza de Otsumami Matsuo, donc tiré du jeu Batman Returns, donc la suite du Batman que toi, tu as passé tout à l'heure.
Comme c'est cohérent.
Comme c'est très très cohérent, sorti en 93 sur NES. J'ai pas joué à ce jeu-là. J'avais joué au Batman que t'as passé tout à l'heure, le premier qui était hyper dur aussi. Donc en tout cas, le thème est hyper cool qu'on vient d'entendre, donc très chiptune comme d'habitude. Soit dit en passant, je l'ai vu à 4,50€ sur eBay. Voilà. Bon, pourquoi celui-ci vaut tellement d'argent, je ne sais pas. C'est le délire du rétro gaming. Ensuite, on a eu le M3, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, le Stage 3, j'imagine, tiré du jeu Les Goonies 2. Alors c'est un film qui n'existe pas, Les Goonies 2, évidemment, qui a été, qui est toujours désiré, je pense, par une grande partie des gens nostalgiques du premier film. Donc c'est joué par Satoe Terashima, qui est une compositrice japonaise qui a quand même bossé sur Castlevania et qui a quand même créé le thème de Castlevania, Vampire Killer, sur le premier du nom. Donc c'est quand même... Elle a marqué les esprits. Le jeu était super chelou, j'ai un souvenir un peu étrange de ce jeu, très difficile bien évidemment. Et d'ailleurs, en retrouvant ce thème sur YouTube, j'ai appris que c'était en fait la version d'un morceau de Cyndi Lauper qui avait été chanté pour le film.
Ok, d'accord. Ah, c'est une adaptation.
C'est une adaptation d'un morceau de Cyndi Lauper. Le clip est assez cool, très très 80s, et qui est utilisé dans les Goonies 1, donc, enfin le film des Goonies, et qui a été repris là donc avec l'instrument. De la NES. Voilà.
Il était trop bien le thème.
Absolument. Le morceau est un peu moins. Je suis moins sensible au vrai morceau de Cyndi Lauper. Par contre, la version NES, je trouve que ça énorme. Ensuite, on a eu un jeu que j'ai fait plus tard. Non, cela dit, on me l'avait prêté à l'époque. Crossover énorme qu'on n'a jamais eu au cinéma, c'est Robocop versus Terminator. Le morceau Streets, donc très urbain, un peu méchant. Là, c'est le dernier qu'on a écouté avec. Une ambiance super un peu méchante, quoi, très Mega Drive, et le thème Robocop Terminator, donc deux monstres sacrés du cinéma, et qui s'affrontent. Donc on joue Robocop et on affronte des Terminators, car évidemment Robocop c'est le gentil policier robot, les Terminators c'est les méchantes machines, et c'est un crossover qui est né dans les comics Et au même titre que Alien versus Predator. Ce qui est bien, c'est que dans les comics, on peut fantasmer tout ce qu'on n'aura jamais au cinéma ou ce qu'on n'aura jamais. Cela dit, avec le rachat des licences, maintenant, on a un peu tout qui peut arriver. Mais il y a eu des sacrés crossovers dans les comics. On a même eu, je crois, Alien contre Predator et Terminator en même temps. Batman contre Predator et Alien. Enfin, que des trucs délirants. En fait, le jeu était hyper cool, très violent. Il y avait du sang, pas mal. C'est un jeu à faire, même aujourd'hui, je trouve qu'il a, il a un super gameplay. Et la musique est vraiment excellente. C'est dans,
avec la ligne de basse complètement folle. Quoi.
C'est... Ouais, c'est hyper un peu technoïde, métallique, on va dire. C'est un jeu à découvrir aujourd'hui, en tout cas, quand on aime en plus Robocop et Terminator. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, je pense.
Ah, j'ai envie de tester, ça me donne vachement.
Ouais, franchement, c'est un bon jeu rétro à faire. Et ok, donc je vais ensuite enchaîner avec un morceau tiré de Alien Trilogy, qu'on a déjà passé des musiques de ce jeu-là, par Stefan Root, d'ailleurs, qui a signé aussi le premier morceau de Die Hard que tu as passé tout à l'heure,
ah, oui.
Entre autres. Et ensuite, un morceau tiré d'un point and click génial dont on parlera après. We'll be right back. Canal B 94 FM. Et oui, vous l'avez reconnu, le thème.
Génial.
À la fin. Il m'a donné des frissons, la petite chair de poule.
Ouais.
Le thème de Indiana Jones, bien évidemment. C'était donc tiré du jeu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Alors, on pourrait pas mal parler sur ce jeu, parce que déjà, c'est un jeu LucasArts. Donc LucasArts, c'est le département jeux vidéo de George Lucas, enfin de Lucasfilm, LucasArts.
C'est ça.
Ils ont adapté des franchises mythiques de George Lucas en jeux vidéo. Et c'est vrai que tout à l'heure, on disait un peu le rapport un peu malsain entre le jeu vidéo et le cinéma, qui était quand même basé beaucoup sur la thune. Comme quoi, il fallait sortir des jeux vraiment le plus vite possible quand un gros film sortait, pour essayer de vendre du merch, en gros. Et les jeux étaient souvent bâclés, pas très intéressants. LucasArts, justement, ce qui est génial, c'est qu'en faisant LucasArts, c'était très contrôlé. En fait, c'était des produits de super qualité. Donc, tu avais les films Star Wars, par exemple, qui sortaient. Et tu avais, juste après, tout un tas de jeux Star Wars qui étaient donc inspirés, adaptés. Et c'était génial, quoi. On a eu des sacrés bijoux. Moi, je me rappelle, j'avais TIE Fighter sur PC, donc avec un joystick. On jouait un pilote de TIE Fighter, donc les vaisseaux de l'Empire. Il y avait aussi la version X-Wing et X-Wing versus TIE Fighter. J'avais peut-être eu les trois sur PC, je ne sais plus. Et tu vivais des aventures de fou.
Avec LucasArts, ça a été quand même super malin. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas genre Lucas lui-même, mais bon, pour d'avoir créé un vrai studio de jeux vidéo. Enfin, il y avait un vrai soin à porter au jeu.
Bah ouais, après,
jeu,
je pense qu'il y avait sûrement une volonté de faire un peu de thune aussi, forcément. Mais
oui.
Après, je sais que Steven Spielberg, George Lucas, ils étaient tout de suite très fans du jeu vidéo, du médium. Ah, même Spielberg, après, il a fait Ready Player One aussi, qui est quand même un film très axé là-dessus. Mais ouais, en tout cas, comme tu dis, c'est très malin et ça permet de contrôler aussi la qualité des jeux, en fait.
Mais carrément.
Et surtout, c'était un peu une époque où le jeu n'était pas comme il était aujourd'hui. Donc, il y avait une espèce de... Je sais pas, là, peut-être que je fantasme un peu, mais il y a peut-être un peu plus de... Bah, vu qu'il y avait du pognon aussi de Lucasfilm, c'était un peu tranquille, peut-être. Il y avait une liberté créatrice qui était folle aussi.
Mmh.
Et donc là, ce qu'il faut aussi aborder, c'est que LucasArts, ils ont quand même façonné le point and click.
Voilà, c'était l'âge d'or du point and click.
Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux où on ne contrôle pas forcément le personnage avec un clavier ou un contrôleur. On clique à des endroits de l'écran pour faire se déplacer le personnage. Et c'est aussi avec la souris, en cliquant sur des actions à faire. Donc, tu as des boutons, il fallait dire parler à, ouvrir telle chose, prendre telle chose, donc il fallait cliquer sur les objets sur l'écran, sur les personnages pour leur parler, etc.
C'était très... Il y avait un côté très narratif, donc allait bien avec le fait que ce soit George Lucas, et c'était plutôt des énigmes, quoi. Enfin, il fallait combiner des objets entre eux pour...
C'est ça, ça partait dans des trucs très absurdes parfois, des gros casse-têtes, et dans Fate of Atlantis, donc en fait, c'est le Indiana Jones qui est jamais sorti au cinéma, ça devait être le Indiana Jones 4 normalement. Mmh. Je sais pas si tu avais cette petite anecdote. C'était un scénario qui a été abandonné, donc c'était donc la quête d'Indy avec la découverte de l'Atlantis. Et donc c'est devenu un jeu et qui est cultissime aujourd'hui et dont on a entendu le morceau là qui s'appelle The Azores. Donc c'est des îles, je crois que c'est des fausses îles grecques. Enfin, le jeu, je me rappelle, on arrive sur ces îles et c'est une version de, je pense, MS-DOS carte-son, donc comme un sujet qu'on a abordé tout à l'heure.
Carrément.
C'est un morceau qui est très beau, je trouve, parce qu'il est... Alors, est-ce que tout le monde trouvera ça poétique ou pas? Je sais pas. Moi, c'est mon cas. Je trouve qu'il y a une beauté dans l'utilisation des limitations techniques et tout ça. Et surtout, à la fin, quand on a le thème d'Indy qui arrive, je trouve que
c'est un
ressort émotionnel qui est très fort. Donc voilà, on fera peut-être une émission sur les point and click parce qu'il y a Monkey Island, Day of Tentacle qui sont absolument géniaux, très référencés au cinéma aussi pour Monkey Island. C'était cool en tout cas de parler un peu de ce genre de jeu.
C'est marrant, moi j'ai fini mon mix sur un morceau de Tomb Raider et t'as fini ton mix sur un morceau de Indiana Jones. Mais c'est
fou. C'est génial.
C'est même pas concerté.
Ah, c'est la magie du cinéma et du jeu vidéo.
La magie du cinéma.
Et juste avant, pour en parler quand même, on a eu donc un morceau de Alien Trilogy. C'était un super jeu, comme Die Hard Trilogy finalement que tu as passé.
Oh là là.
Ah, mais c'est fou. Alien Trilogy, je me rappellerai toujours, je l'ai eu sur PlayStation 1, sorti en 96. Donc c'était plus ou moins les trois films Alien en jeu vidéo, sauf que. Bah, évidemment, dans Alien 1 ou Alien 3, dans les films, il y a un seul xénomorphe. Dans les jeux, évidemment, on désingue de l'alien par dizaine.
Ah bah oui.
Donc, on n'est pas du tout dans un un choix réaliste de scénario, mais par contre c'était cool. Il y avait vraiment, c'est un jeu qui faisait très peur. Il y avait vraiment ce côté très sombre dans les couloirs avec des facehuggers qui te sautent à la tête. La musique était plutôt technoïde, drum and bass, donc rien à voir avec l'ambiance plutôt justement minimaliste des films.
Bah parce que ouais, évidemment. C'était assez rapidement transformé en jeu d'action, quoi. Alors que à la base. Enfin, en tout cas, le premier Alien, c'est pas du tout un film d'action, quoi. Voilà. C'est plutôt un film d'horreur.
On saluera Alien Isolation.
Alien Isolation a repris un peu ce truc-là voilà, beaucoup plus tard, quoi.
Bien sûr. En tout cas, c'est un cool jeu qui a vraiment beaucoup vieilli, quoi. Mais pareil, si vous aimez bien jouer à des jeux anciens et avoir des sensations mine de rien assez fortes, Alien Trilogy, donc, il était.
C'était en vue première personne, ouais, en FPS.
Ouais. FPS. Avec l'armement du film, les lance-flammes, les pulse rifles, comme ça.
Ouais. Et il y a le bip aussi.
Tu as le bip, tu as le détecteur de mouvement aussi.
Ah, stylé.
Et d'ailleurs, Alien vs Predator, super franchise en jeu. Moi, j'avais lu un sur PC où tu incarnais soit un Marines, enfin un Colonial Marines, un Alien ou un Predator.
Predator, ouais.
Et c'était très cool aussi, pareil, tu retrouvais ce genre de sensation.
Bah, jouer l'Alien, c'était. Moi, j'adorais jouer l'Alien. Après, c'était un peu compliqué parce que tu pouvais. Marcher au mur, au plafond, et pour un cerveau d'alien, c'est peut-être cool, mais pour un cerveau d'humain, des fois, t'es un peu perdu. Mais l'idée était super.
Bon, voilà, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire, je pense encore. Il y a tellement de jeux, des films et inversement, qu'on aurait pu en parler longtemps. Peut-être qu'on en fera une plus tard. Mais on va aborder donc la dernière partie de l'émission, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais bon, la partie actu du label, on va passer un peu outre, dans le sens où il y aura des très belles actualités. Bientôt, dans l'année, on a un petit programme de sorties.
On tease à fond sans dire exactement ce qui va se passer, mais oui, il va y avoir des sorties et il va y avoir sans doute une invitée qui va sortir des trucs sur le label.
C'est ça,
sûrement dans une émission prochaine, peut-être la prochaine ou celle d'après.
Peut-être la prochaine, on va proposer un format aussi d'objets, on va travailler dessus aussi, on verra bien.
Carrément.
Et bon, pour les actus du label, c'est à peu près tout pour l'instant.
Et donc, on va passer un petit morceau pour
conclure.
On va peut-être se quitter là-dessus. Donc, tu nous le présentes vite fait.
Ouais, donc le morceau s'appelle Lithium Powers. Donc, c'est de l'artiste et compositrice Cyanide Dansen, qui est à Paris, je crois. Sorti sur son album, un EP ou un album, je ne sais plus, sur Bandcamp, qui est sorti en 2019.
Oui, c'est un album, ouais.
Album, ouais, ok. Do Not Harm. Donc, c'est une personnalité assez connue de la chiptune en France. J'ai jamais vu en concert. Un peu dans l'équivalent de Chipzel en Angleterre, c'est un peu je pense que c'est des personnalités assez fortes de cette musique qui représentent bien le truc. Donc c'est de la grosse chiptune un peu énervée et on va se quitter donc là-dessus. Cyanide Dansen, Lithium Powers et à la prochaine tout le monde.
Salut, à dans deux semaines.
À dans deux semaines sur Canal B.